Enfant, avec les copains, quand on gambadait dans les prés et les bois, on ne m'amenait jamais de quoi boire avec nous. Nous épanchions notre soif dans un ruisseau parce qu'à cette époque, la pollution n'était pas un problème. C'est vrai que de temps en temps, nous trouvions aussi des trous d'eau verdâtres parfaitement répugnants. Je continue à lire dans le chapitre 25 du livre des Proverbes. Un juste qui se laisse ébranler devant le méchant est comme une source aux eaux troubles ou une fontaine polluée. Proverbe 25, verset 26. Dans la région aride du Proche-Orient, une source ou un puits d'eau potable est un bien très précieux. Pareillement, un homme juste et droit l'est aussi. Après qu'Hitler ait accédé à la chancellerie, les dirigeants européens se soumettent à toutes ces exigences soi-disant pour avoir la paix. Chamberlain pour l'Angleterre et Daladier pour la France acceptent donc de signer les accords de Munich, cédant ainsi aux caprices du Führer et donnant au parti nazi la main haute et une raison de jubiler. Ces dirigeants, ayant ainsi perdu leur crédibilité, leur réputation et leur respect du monde libre, sont devenus semblables à une source d'eau corrompue dont il faut se méfier. De nos jours en politique et dans le monde des affaires, il est fréquent que des gens qui étaient intègres au début de leur carrière se compromettent en trempant dans des sales affaires, généralement des histoires de gros sous ou de sexe. Je continue le texte. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais étudier des choses difficiles, voilà ce qui est important. Proverbe 25, verset 27. Ce verset très obscur est traduit diversement. Un peu de miel est bon à manger et pour la santé, puisque c'est un antiseptique naturel. Mais trop, ça écœure. Alors plutôt que de rechercher les plaisirs faciles, il vaut mieux s'appliquer à l'étude sérieuse et approfondie des questions importantes de la vie qui se posent à notre esprit, comme la raison de notre présence sur terre, par exemple. Je finis de lire le chapitre 25. « Celui qui ne sait pas se dominer est comme une ville démantelée qui n'a plus de rempart. » Proverbe 25, verset 28. Jadis, une ville sans rempart était vulnérable aux attaques de n'importe quel ennemi. Pareillement, celui qui ne se maîtrise pas, Proverbe 14, verset 17, 29, 16, verset 32, 29, verset 11, s'expose à toutes sortes de problèmes. Nous arrivons au chapitre 26, qui, comme le précédent, fait partie de la seconde collection des proverbes écrits par le roi Salomon. Sur les 13 première sentence, 12 parle de l'insensé. Et l'un de ses traits caractéristiques nous est donné par le roi David qui, dans le psaume 14, écrit « Les insensés disent « Dieu n'existe pas ». Psaume 14, verset 1er. Selon le genre de stupidité, les Hébreux utilisent un mot différent. Dans les textes sacrés, un insensé n'est pas quelqu'un qui est psychotique ou mentalement déficient suite à une maladie, un accident ou une anomalie génétique. Non, l'insensé est insensible à Dieu et à ses règles morales. J'ai un ami qui, à l'âge de 30 ans, a eu une attaque cérébrale qui l'a laissé un peu simplet, souriant, mais incapable de prendre une décision de quelque importance ni d'avoir une conversation suivie sur un sujet quelconque. Ce n'est pas un insensé tel que les Écritures le définissent. Je connais une famille de deux frères et une sœur qui vivent ensemble dans une grande ferme. Ce sont de très proches gens qui se plient en quatre pour bien vous accueillir et avec qui on peut bien discuter. Mais ils sont différents du commun des mortels. Quand je suis entré dans la cuisine, il a fallu chasser les poules qui s'étaient confortablement installées sur les chaises. Puis il fallait aussi bien faire attention où on mettait les pieds ou où on s'asseyait. Alors qu'on prenait le café, une vache est venue nous dire bonjour, puis des chèvres, qui se promenaient un peu partout, nous ont rendu visite, et il y avait aussi un cheval dans l'une des chambres à coucher. Ces gens sont originaux, mais ni sots ni insensés, puisqu'ils ont non seulement accepté Jésus comme leur sauveur, mais sont très pieux. Leur excentricité est peut-être due au fait qu'ils descendent d'une succession de mariages consanguins. Je commence maintenant à lire le chapitre 26. Être honoré convient aussi peu à un sot que la neige en été ou la pluie pendant la moisson. Proverbe 26, verset 1er, comparé avec Proverbe 26, verset 8, 19, verset 10. En principe, de mars à octobre, il ne pleut pas en Israël. Alors, un gros orage peut éclater au moment où on doit rentrer le foin est tout à fait inhabituel et pose de sérieux problèmes parce qu'on ne peut pas le stocker mouillé, autrement il pourrit. Une tempête de neige en été rafraîchirait l'atmosphère, mais serait vraiment bizarre. De même, honorer un insensé est anormal et néfaste, mais c'est monnaie courante parce que nous vivons dans un monde insensé. Combien de statues ont été érigées en honneur à des criminels de grande envergure, des écrivains, ou des metteurs en scène d'œuvres scandaleuses reçoivent un Oscar, tandis que des philosophes sont admis à l'Académie des lettres, bien que leur idée soit à l'origine de nettoyage ethnique. Même le prix Nobel est quelquefois décerné à des insensés. Je continue. Une malédiction injustifiée reste sans effet. Elle est comme le moineau qui s'enfuit ou l'hirondelle qui s'envole. Proverbe 26, verset 2. L'Ancien Testament raconte l'étrange histoire de Balaam, un devin prophète de l'Éternel, mais en même temps sorcier syncrétiste, opportuniste, qui cherche avant tout l'argent et les honneurs, mais qui possède un réel pouvoir. Nombre 22, verset 6, qui lui vient de Dieu. Il est engagé pour une somme colossale par Balak, un roi local, afin qu'il maudisse les Hébreux qui sont sur le point de commencer la conquête du pays de Canaan. Mais chaque fois que Balaam veut prononcer une malédiction, c'est une bénédiction qui sort de sa bouche. Dans le livre des Nombres, on lit qu'il dit au roi Balak qui est furieux. « Mais comment maudirais-je ce peuple ? Dieu ne l'a pas maudit. » Comment menacerai-je celui que l'Éternel ne veut pas menacer ? Nombre 23, verset 8. Beaucoup de gens se proclament médiums ou diseurs de bonne aventure. Souvent, ils se trompent et parfois, ils tapent juste et leurs prédictions se réalisent. Mais c'est un hasard. Car un vrai prophète de Dieu ne fait jamais d'erreur. Deutéronome 18, verset 22. Je continue le texte. Le fouet est fait pour le cheval, le mors pour l'âne et le bâton pour l'échine des insensés. Proverbe 23, verset 3, comparé avec Proverbe 10, verset 13, 19, verset 29 et Psaume 32, verset 9. On ne peut raisonner avec un cheval, un âne ou un insensé. Prenne que la douleur. Pour les diriger et les éduquer, il est donc nécessaire d'utiliser des instruments qui font mal. Je continue. Ne réponds pas au sot selon sa sottise. Tu finiras par lui ressembler toi aussi. Réponds au sot selon sa sottise, sinon il se prendra pour un sage. Proverbe 26, versets 4 et 5. Ces deux proverbes qui semblent se contredire ont donné de l'eau au moulin de ceux qui clament bien haut et fort que les textes sacrés sont truffés d'erreurs. L'adepte du philosophe grec Pythagore, VIe siècle, utilise des paradoxes semblables comme par exemple « Sur la voie royale ne marche pas sur la voie royale, la grande route ». En fait, les deux sentences apparemment contradictoires de ce proverbe se justifient pleinement. Dans certaines situations, il ne faut pas descendre au niveau de l'insensé ni le suivre sur son terrain, car il croit qu'on approuve ce qu'il dit ou ce qu'il fait. De plus, répondre à ces inepties est une perte de temps, car de toute façon, il n'écoute pas et on risque de se laisser entraîner dans des discussions interminables qui n'ont ni queue ni tête. Il vaut mieux se taire. En d'autres circonstances, ne rien dire lui fait croire qu'on lui donne raison et qu'on accepte ses idées fausses ou son comportement insensé. Il faut alors lui répondre comme il le mérite et même le corriger de façon énergique en lui montrant sa stupidité. Au sage de discerner ce qui convient au cas par cas. Il y a bien des années, j'ai reçu un courrier d'une maman très inquiète pour son fils étudiant que j'avais bien connu. Je lis son long discours et je me rends tout de suite compte que, sous forme de question, elle m'accuse d'être responsable de ses problèmes. Au vu de sa détresse, je décide de lui répondre point par point dans le but de les aider, elle et son fils. Mais elle m'expédie hélico presto une nouvelle missive plutôt méchante et qui montre qu'elle n'a absolument pas tenu compte de mes explications. Je réalise alors que le but de cette dame querelleuse est d'avoir raison et que si je continue à écrire, je ne vais qu'attiser les flammes. Proverbe 22, versets 20 et 21. J'ai donc cessé toute correspondance. Depuis que la toile, l'Internet, a le vent en poupe, je reçois comme vous sans aucun doute des tas d'informations ou sollicitations stupides auxquelles je ne donne aucune suite, tandis qu'à d'autres courriels, je réponds immédiatement. Je continue le texte. Celui qui confie des messages à un sot se coupe les pieds et se prépare bien à des déboires. Proverbe 26, verset 6, comparé avec Proverbe 10, verset 26. Si j'ai une information importante à transmettre, je ne confie pas la lettre à un insensé, sinon elle a autant de chances d'arriver à bon port que si elle était amenée à pied par un cul-de-jatte. Je continue. Un proverbe dans la bouche des sots fait le même effet que les jambes inertes d'un estropié. Proverbe 26, verset 7, comparé avec Proverbe 25, verset 19. C'est bien de posséder des jambes, mais elles sont tout à fait inutiles à un paraplégique. Le proverbe le plus précieux perd toute sa valeur sur les lèvres d'un insensé, qui de toute façon ne sait pas l'appliquer à bon escient. Ça me fait penser qu'on a mis les paroles de Jésus ou des textes sacrés à toutes les sauces afin de justifier n'importe quoi et surtout des aberrations morales. Dans sa seconde épître, Pierre écrit « Les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens des Écritures pour leur propre perdition. » De Pierre, chapitre 3, verset 16. Je continue le texte. Décerner des honneurs à un insensé, c'est attacher une pierre à une fronde. Proverbe 6, verset 8, est comparé avec Proverbe 26, verset 1er. Fixer un projectile que l'on veut lancer est totalement absurde. Dans la Vulgate, la version latine de la Bible, il est écrit. Décerner des honneurs à un insensé, c'est jeter une pierre précieuse sur le tas consacré à Mercure. C'est une allusion à la coutume païenne de dresser au bord des chemins des colonnes portant une image de Mercure, le dieu romain des voyageurs, des commerçants et des voleurs. Moi aussi je trouve curieux que ces trois corporations soient chapeautées par le même dieu. Quoi qu'il en soit, au pied de Mercure se trouve un tas de cailloux et le passant y ajoute le sien pour honorer cette divinité. Mais y jeter une pierre précieuse serait une pure folie, tout comme décerner des honneurs à un insensé. Je continue. Un proverbe dans la bouche des sots est comme un rameau épineux brandi par un homme ivre. Proverbe 26, verset 9. Cet homme, imbibé d'alcool, risque de se faire mal et de blesser les autres en même temps. Dans notre contexte, on pourrait être une personne insensée selon le point de vue des Écritures qui enseigne les sciences humaines comme la philosophie, la psychologie ou la sociologie, et même certaines branches scientifiques qui se prêtent à des interprétations subjectives. Un tel personnage risque de faire beaucoup de tort à ses élèves tout en se confortant dans ses erreurs. Il correspond donc bien au proverbe cité. Je continue. Qui embauche un sot, ou le premier venu, est comme un archer qui blesse tout le monde. Proverbe 26, verset 10. En hébreu, ce verset est très obscur. Un tireur à l'arc, imprudent, ne peut pas prendre pour excuse « ce n'est pas moi qui t'ai blessé, mais ma flèche ». Pareillement, un patron est responsable du tort fait à autrui par un employé stupide, laissé à lui-même. Je continue. Le sot retourne à ses folies comme le chien à ce qu'il a vomi. Proverbe 26, verset 11. C'est la sentence la plus répugnante du livre des Proverbes. Comme l'insensé n'est pas capable d'apprendre par l'expérience, il répète sans arrêt les mêmes comportements stupides. L'abandon de la folie est pour lui un changement contre nature. Alors même corrigé, il retourne à son instinct premier. Dans la parabole du fils prodigue, un jeune homme est tombé au plus bas et vit dans une porcherie. Pour un juif, on ne peut pas tomber plus bas. Un jour, il en a marre et décide de retourner à la maison. Supposons qu'il ramène avec lui un joli petit porcelet bien lavé et tout beau, tout rose. À la première occasion, ce charmant animal retournera se vautrer dans la boue parce que c'est sa nature. Dans sa seconde épître, au chapitre 2 et au verset 22, l'apôtre Pierre applique ce proverbe aux faux prophètes qui prétendent être croyants et qui se donnent des airs pieux. Mais on l'âme tordu au point de tromper leurs disciples en toute connaissance de cause. Je continue. J'ai vu un homme qui se croit sage. Il y a plus à espérer d'un sot que lui. Proverbe 22, verset 12. Salomon conclut cette série sur les insensés par une sentence cinglante adressée aux prétentieux. En effet, malgré toute son expérience de la vie, un sage sait qu'il est faillible et que sa science et sa connaissance sont très limitées. L'orgueil, sous toutes ses formes, et la mauvaise langue, Proverbe 29, verset 20, sont des vices constamment et fortement condamnés par le livre des Proverbes. Je continue. Le paresseux dit « Il y a un lion qui barre la route, un fauve qui parcourt les rues. » Comme la porte tourne sur ses gongs, le paresseux se tourne sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il trouve trop pénible de le ramener à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui parle avec bon sens. Proverbe 26, les versets 13 à 16, comparez Proverbe 19, 24 et le 22, verset 13. La porte tourne sur ses gonds, mais ne les quitte jamais. De même, le fainéant est avachi sur un lit, un canapé ou un bout de table et reste assoupi le plus clair de son temps. Et parce qu'il arrive à survivre, il se croit plus malin que les autres, même que des sages qui, à force de réflexion, d'études et d'expérience, sont capables de résoudre les problèmes difficiles de l'existence. Je continue. Vous mêler d'une querelle qui ne vous regarde pas, c'est comme attraper un chien par les oreilles. Proverbe 26, verset 17. À partir d'ici et jusque la fin du chapitre 26, Salomon donne des avertissements et des conseils qui portent un certain aspect négatif des relations humaines. En Orient et dans l'ancien Israël, les chiens sont sauvages et très rarement des animaux de compagnie. Alors en attraper un par les oreilles est pire qu'une très mauvaise idée. Du temps où j'allais sur les vogues, souvent, et pour un oui ou pour un non, des bagarres éclataient à la sortie du bal parce que les jeunes étaient éméchés par l'alcool. Nous, les copains, on se tenait toujours à l'écart de ces disputes. D'abord, parce que ça ne nous regarde pas, et ensuite, parce que ça peut toujours mal tourner. Et en effet, de temps en temps, on lisait dans le journal que quelqu'un s'est pris un coup de couteau. Proverbe 20, verset 3. J'ai déjà eu l'occasion de parler de Josias qui régna sur le royaume de Juda. C'est un brave homme, très pieux, mais un jour, il décide d'intervenir dans une guerre qui ne le concerne pas et il laisse sa peau, de Chronique 35, les versets 20 à 24. La sagesse dicte de ne pas se mêler de ce qui nous regarde pas. Cependant, et comme je l'ai déjà dit, selon un proverbe précédent au chapitre 24 et les versets 11 et 12, le juste doit défendre les innocents. Donc, si je suis témoin d'une agression, je dois faire quelque chose. Maintenant que nous avons tous des téléphones portables, il est facile d'appeler police secours. Je continue le texte. Comme un fou qui lance des traits enflammés et des flèches, semant la mort autour de lui, tel est l'homme qui trompe son prochain et qui dit ensuite « C'était pour plaisanter !» Proverbe 26, les versets 18 et 19. La tromperie est une plaisanterie de très mauvais goût pour la personne qui en fait les frais. Songez par exemple à un jeune homme qui demande à sa belle de l'épouser et ensuite qui lui dit « Oh, mais il fallait pas me prendre au sérieux, je rigolais !» Eh bien, c'est rarement drôle. Je continue. Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a plus de calomniateur, la querelle s'apaise. Les charbons donnent de la braise, le bois alimente le feu, et l'homme querelleur attire la querelle. Les médisances sont comme les friandises. Elles descendent jusqu'au tréfonds de l'être. Proverbe 26, le verset 20 à 22. Comparé avec Proverbe 18, verset 8. Pour échauffer une dispute, il n'y a pas pire que la présence d'une teigne armée d'une mauvaise langue. Proverbe 11, verset 13, 16, verset 28, 20, verset 19. Certaines communautés, clubs ou même certaines familles sont toujours en état d'ébullition. Il y règne un climat pourri, une animosité ambiante à couper au couteau. Ce foyer infectieux ne s'éteint jamais parce qu'un ou plusieurs membres du groupe trouve un malin plaisir à l'entretenir en y ajoutant sans arrêt du combustible sous forme de ragots dont il se délecte. Si les responsables prennent conscience de ce manège et y remédient, ce feu s'éteint de lui-même. On rencontre des gens qui spontanément sèment la zizanie partout où ils vont. Ils sont à l'opposé des faiseurs de paix dont parle Jésus dans les Béatitudes, dans Matthieu 5, verset 9. Une maxime précédente dit « Chasse le moqueur et la discorde prendra fin. Les contestations et les insultes cesseront. » Proverbe 22, verset 10. Comparé Proverbe 18, verset 6, 30, verset 33. Je continue le texte. C'est un vernis argenté sur un pot de terre. Telles sont des paroles chaleureuses sur un cœur malveillant. Celui qui a de la haine peut donner le change par ses propos, mais au fond de lui-même, il est rempli de duplicité. S'il a des propos bienveillants, ne te fie pas à lui, car il y a sept abominations dans son cœur. Il a beau déguiser sa haine sous des apparences trompeuses, sa méchanceté finira par apparaître aux yeux de tous. Proverbe 26, les versets 23 à 26, comparé avec Proverbe 6, verset 18. Dans ce passage, le maître de sagesse nous met en garde contre l'hypocrisie des paroles polies, douces, charmantes et flatteuses, qui peuvent facilement dissimuler des intentions secrètes plus ou moins vicieuses. Tous les malfaiteurs sont coupables, mais aussi les politiciens, les agences publicitaires, les hommes d'affaires et certains religieux, et parfois, moi aussi. Je continue. Celui qui creuse une fosse y tombera lui-même, et la pierre revient sur celui qui la roule. Proverbe 26, verset 27, comparé Proverbe 1, verset 18, 28, verset 10, Psaume 7, les versets 16 et 17, 9, verset 15, 35, verset 8 et 57, verset 6. Plusieurs passages des Écritures affirment que la méchanceté agit comme un boomerang qui revient sur le fourbe. Je finis de lire le chapitre 26. Celui qui raconte des mensonges a de la haine pour ceux qu'il blesse, et avec des paroles flatteuses, on cause la ruine de quelqu'un. Proverbe 26, verset 28. L'historien et homme politique romain Tacite, 55 à 120 après Jésus-Christ, a écrit « Il est courant pour les hommes de haïr ceux qui ont blessé. Décidément, la cruauté humaine ne connaît pas de limites.